À cette époque, Madame de la Baudraye n'avait plus d'ennemis. On affluait chez elle. Il ne se passait pas de semaine qu'il n'y eût de nouvelles présentations. La femme du président du tribunal, une auguste bourgeoise née Popinot Chandier, avait dit à son fils, jeune homme de 22 ans, d'aller à la Baudraye y faire sa cour, et se flattait de voir son Gatien dans les bonnes grâces de cette femme supérieure. Le mot « femme supérieure » avait remplacé le grotesque surnom de Sapho de Saint-Satur. La présidente, qui pendant 9 ans avait dirigé l'opposition contre Dinah, fut si heureuse d'avoir vu son fils agréé qu'elle dit un bien infini de la muse de Sancerre. « Après tout !» s'écria-t-elle en répondant à une tirade de Madame de Clagny, qui haïssait à la mort la prétendue maîtresse de son mari. « C'est la plus belle femme et la plus spirituelle de tout le Berry !» Après avoir roulé dans tant de halliers, s'être élancée en 1000 voies diverses, avoir rêvé l'amour dans sa splendeur, avoir aspiré les souffrances des drames les plus noirs, en en trouvant les sombres plaisirs achetés à bon marché, tant la monotonie de sa vie était fatigante, un jour Dinah tomba dans la fosse qu'elle avait juré d'éviter. En voyant Monsieur de Clagny se sacrifiant toujours, et qui refusa d'être avocat général à Paris où l'appelait sa famille, elle se dit « Il m'aime !» Elle vainquit sa répugnance et parut vouloir couronner tant de constance. Ce fut à ce mouvement de générosité chez elle que Sancerre dut la coalition qui se fit aux élections en faveur de Monsieur de Clagny. Madame de la Baudraye avait rêvé de suivre à Paris le député de Sancerre, mais, malgré de solennelles promesses, les 150 voix données à l'adorateur de la belle Dinah, qui voulait faire revêtir la simarre du garde des Sceaux à ce défenseur de la veuve et de l'orphelin, se changèrent en une imposante minorité de 50 voix. La jalousie du président Boisrouge, la haine de M. Gravier, qui crut à la prépondérance du candidat dans le cœur de Dinah, furent exploitées par un jeune sous-préfet que, pour ce fait, les doctrinaires firent nommer préfet. « Je ne me consolerai jamais, dit-il à un de ses amis en quittant Sancerre, de ne pas avoir su plaire à Madame de la Baudraye. Mon triomphe eût été complet. » Cette vie intérieurement si tourmentée offrait un ménage calme, deux êtres mal assortis mais résignés. Je ne sais quoi de rangé, de décent, ce mensonge que veut la société, mais qui faisait à Dinah comme un harnais insupportable. Pourquoi voulait-elle quitter son masque après l'avoir porté pendant 12 ans? D'où venait cette lassitude quand chaque jour augmentait son espoir d'être veuve? Si l'on a suivi toutes les phases de cette existence, on comprendra très bien les différentes déceptions auxquelles Dinah, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, s'était laissée prendre. Du désir de dominer Monsieur de la Baudraye, elle était passée à l'espoir d'être mère. Entre les discussions de ménage et la triste connaissance de son sort, il s'était écoulé toute une période. Puis, quand elle avait voulu se consoler, le consolateur Monsieur de Chargebœuf était parti. L'entraînement qui cause les fautes de la plupart des femmes lui avait donc jusqu'alors manqué. S'il est enfin des femmes qui vont droit à une faute, n'en est-il pas beaucoup qui s'accrochent à bien des espérances et qui n'y arrivent qu'après avoir erré dans un dédale de malheurs secrets? Telle fut Dinah. Elle était si peu disposée à manquer à ses devoirs qu'elle n'aima pas assez Monsieur de Clagny pour lui pardonner son insuccès. Son installation dans le château d'Anzy, l'arrangement de ses collections, de ses curiosités qui reçurent une valeur nouvelle du cadre magnifique et grandiose que Philibert de Lorme semblait avoir bâti pour ce musée, l'occupèrent pendant quelques mois et lui permirent de méditer une de ces résolutions qui surprennent le public à qui les motifs sont cachés, mais qui souvent les trouvent à force de causeries et de suppositions. La réputation de Lousteau, qui passait pour un homme à bonne fortune à cause de ses liaisons avec des actrices, frappa Madame de la Baudraye. Elle voulut le connaître, elle lut ses ouvrages et se passionna pour lui, moins peut-être à cause de son talent qu'à cause de ses succès auprès des femmes. Elle inventa, pour l'amener dans le pays, l'obligation pour Sancerre d'élire aux prochaines élections une des 2 célébrités du pays. Elle fit écrire à l'illustre médecin par Gatien Boisrouge, qui se disait cousin de Bianchon par les Popinot. Puis elle obtint d'un vieil ami de feu Madame Lousteau de réveiller l'ambition du feuilletoniste en lui faisant part des intentions, où quelques personnes de Sancerre se trouvaient, de choisir leur député parmi les gens célèbres de Paris. Fatiguée de son médiocre entourage, Madame de la Baudraye allait enfin voir des hommes vraiment supérieurs. Elle pourrait ennoblir sa faute de tout l'éclat de la gloire. Ni Lousteau, ni Bianchon ne répondirent. Peut-être attendait-il les vacances. Bianchon, qui l'année précédente avait obtenu sa chaire après un brillant concours, ne pouvait quitter son enseignement. Au mois de septembre, en pleine vendange, les deux Parisiens arrivèrent dans leur pays natal et le trouvèrent plongé dans les tyranniques occupations de la récolte de 1836. Il n'y eut donc aucune manifestation de l'opinion publique en leur faveur. « Nous faisons four !» dit Lousteau, en parlant à son compatriote la langue des coulisses. En 1836, Lousteau, fatigué par 16 années de lutte à Paris, usé tout autant par le plaisir que par la misère, par les travaux et les mécomptes, paraissait avoir 48 ans, quoiqu'il n'en eût que 37. Déjà chauve, il avait pris un air byronien, en harmonie avec ses ruines anticipées, avec les ravins tracés sur sa figure par l'abus du vin de champagne. Il mettait les stigmates de la débauche sur le compte de la vie littéraire, en accusant la presse d'être meurtrière. Il faisait entendre qu'elle dévorait de grands talents, afin de donner du prix à sa lassitude. Il crut nécessaire d'outrer dans sa patrie et son faux dédain de la vie et sa misanthropie postiche. Néanmoins, parfois ses yeux jetaient encore des flammes comme ces volcans qu'on croit éteints. Et il essaya de remplacer par l'élégance de la mise tout ce qui pouvait lui manquer de jeunesse aux yeux d'une femme. Horace Bianchon, décoré de la Légion d'honneur, gros et gras comme un médecin en faveur, avait un air patriarcal, de grands cheveux longs, un front bombé, la carrure du travailleur et le calme du penseur. Cette physionomie assez peu poétique faisait ressortir admirablement son léger compatriote. Ces deux illustrations restèrent inconnues pendant toute une matinée à l'auberge où elles étaient descendues, et M. de Clagny n'apprit leur arrivée que par hasard. Madame de la Baudraye, au désespoir, envoya Gatien Boisrouge, qui n'avait point de vigne, inviter les deux Parisiens à venir pour quelques jours au château d'Anzy. Depuis un an, Dinah faisait la châtelaine et ne passait plus que les hivers à la Baudraye. Monsieur Gravier, le procureur du roi, le président et Gatien Boisrouge, offrirent aux deux hommes célèbres un banquet auquel assistèrent les personnes les plus littéraires de la ville. En apprenant que la belle Madame de la Baudraye était Jean Diaz, les deux Parisiens se laissèrent conduire pour 3 jours au château d'Anzy, dans un char à banc que Gatien mena lui-même. Ce jeune homme, plein d'illusions, donna Madame de la Baudraye aux deux Parisiens, non seulement comme la plus belle femme du Sancerrois, comme une femme supérieure et capable d'inspirer de l'inquiétude à George Sand, mais encore comme une femme qui produirait à Paris la plus profonde sensation. Aussi l'étonnement du docteur Bianchon et du goguenard feuilletoniste fut-il étrange, quoique réprimé, quand ils aperçurent au perron d'Anzy la châtelaine vêtue d'une robe en léger casimir noir, à guimpes, semblable à une amazone sans queue, car ils reconnurent des prétentions énormes dans cette excessive simplicité. Dinah portait un béret de velours noir à la Raphaël, d'où ses cheveux s'échappaient en grosses boucles. Ce vêtement mettait en relief une assez jolie taille, de beaux yeux, de belles paupières, presque flétries par les ennuis de la vie qui vient d'être esquissée. Dans le Berry, l'étrangeté de cette mise artiste déguisait les romanesques affectations de la femme supérieure. En voyant les minauderies de leur trop aimable hôtesse, qui étaient en quelque sorte des minauderies d'âme et de pensée, les deux amis échangèrent un regard et prirent une attitude de profondément sérieuse pour écouter Madame de la Baudraye qui leur fit une allocution étudiée en les remerciant d'être venus rompre la monotonie de sa vie. Dinah promena ses hôtes autour du boulingrin orné de corbeilles de fleurs qui s'étalait devant la façade d'Anzy. « Comment ?» demanda Lousteau le mystificateur. « Une femme aussi belle que vous l'êtes et qui paraît si supérieure a-t-elle pu rester en province? Comment faites-vous pour résister à cette vie ?»« Ah, voilà !» dit la châtelaine. « On n'y résiste pas. Un profond désespoir ou une stupide résignation, ou l'un ou l'autre, il n'y a pas de choix. Tel est le tuf sur lequel repose notre existence et où s'arrêtent 1000 pensées stagnantes qui, sans féconder le terrain, y nourrissent les fleurs étiolées de nos âmes désertes. Ne croyez pas à l'insouciance. L'insouciance tient au désespoir ou à la résignation. Chaque femme s'adonne alors à ce qui, selon son caractère, lui paraît un plaisir. Quelques-unes se jettent dans les confitures et dans les lessives, dans l'économie domestique, dans les plaisirs ruraux de la vendange ou de la moisson, dans la conservation des fruits, dans la broderie des fichus, dans les soins de la maternité, dans les intrigues de petites villes. D'autres tracassent un piano inamovible qui sonne comme un chaudron au bout de la 7e année et qui finit ses jours asthmatique au château d'Anzy. Quelques dévotes s'entretiennent des différents crus de la parole de Dieu. L'on compare l'abbé Fritaud à l'abbé Guinard. On joue aux cartes le soir, on danse pendant 12 années avec les mêmes personnes, dans les mêmes salons, aux mêmes époques. cette belle vie est entremêlée de promenades solennelles sur le mail, de visites d'étiquettes entre femmes qui vous demandent où vous achetez vos étoffes. La conversation est bornée au sud de l'intelligence par les observations sur les intrigues cachées au fond de l'eau dormante de la vie de province, au nord par les mariages sur le tapis, à l'ouest par les jalousies, à l'est par les petits mots piquants. « Aussi le voyez-vous » dit-elle en se posant. « Une femme a des rides à 29 ans, 10 ans avant le temps fixé par les ordonnances du docteur Bianchon. Elle se coupe rose aussi très promptement et jaunit comme un coin quand elle doit jaunir. Nous en connaissons qui verdissent. Quand nous en arrivons là, nous voulons justifier notre état normal. Nous attaquons alors de nos dents acérées comme des dents de mulot les terribles passions de Paris. Nous avons ici des puritaines à contre-cœur qui déchirent les dentelles de la coquetterie et rongent la poésie de vos beautés parisiennes, qui entament le bonheur d'autrui en vantant leurs noix et leurs lards rances, en exaltant leurs trous de souris économes, les couleurs grises et les parfums monastiques de notre belle vie sancerroise. J'aime ce courage, madame, dit Bianchon. Quand on éprouve de tels malheurs, il faut avoir l'esprit d'en faire des vertus. Stupéfait de la brillante manœuvre par laquelle Dinah livrait la province à ses hôtes, dont les sarcasmes étaient ainsi prévenus, Gatien Boisrouge poussa le coude à Lousteau en lui lançant un regard et un sourire qui disaient « Hein? Vous ai-je trompé ?»« Mais, madame, dit Lousteau, vous nous prouvez que nous sommes encore à Paris. Je vous volerai cette tartine. Elle me vaudra 10 francs dans mon feuilleton. » « Oh, monsieur, répliqua-t-elle, défiez-vous des femmes de province. Et pourquoi ?» dit Lousteau. Madame de la Baudraye eut la rouerie, assez innocente d'ailleurs, de signaler à ces deux Parisiens, entre lesquels elle voulait choisir un vainqueur, le piège où il se prendrait, en pensant qu'au moment où il ne le verrait plus, elle serait la plus forte. On se moque d'elle en arrivant, puis, quand on a perdu le souvenir de l'éclat parisien, en voyant la femme de province dans sa sphère, on lui fait la cour, ne fût-ce que par passe-temps. Vous que vos passions ont rendu célèbre, vous serez l'objet d'une attention qui vous flattera. « Prenez garde !» s'écria Dinah, en faisant un geste coquet et s'élevant par ses réflexions sarcastiques au-dessus des ridicules de la province et de Lousteau. Quand une pauvre petite provinciale conçoit une passion excentrique pour une supériorité, pour un Parisien égaré en province, elle en fait quelque chose de plus qu'un sentiment. Elle y trouve une occupation et l'étend sur toute sa vie. Il n'y a rien de plus dangereux que l'attachement d'une femme de province. Elle compare, elle étudie, elle réfléchit, elle rêve, elle n'abandonne point son rêve, elle pense à celui qu'elle aime quand celui qu'elle aime ne pense plus à elle. Or, une des fatalités qui pèse sur la femme de province est ce dénouement brusque de ses passions, qui se remarque souvent en Angleterre. En province, la vie à l'état d'observation indienne force une femme à marcher droit dans son rail, ou à en sortir vivement comme une machine à vapeur qui rencontre un obstacle. Les combats stratégiques de la passion, les coquetteries, qui sont la moitié de la parisienne, rien de tout cela n'existe ici. « C'est vrai, dit Lousteau, il y a dans le cœur d'une femme de province des surprises, comme dans certains joujoux. « Oh mon Dieu, reprit Dinah, une femme vous a parlé 3 fois pendant un hiver, elle vous a serré dans son cœur à son insu. Vient une partie de campagne, une promenade, tout est dit. Ou, si vous voulez, tout est fait. Cette conduite, bizarre pour ceux qui n'observent pas, a quelque chose de très naturel. Au lieu de calomnier la femme de province en la croyant dépravée, un poète comme vous, ou un philosophe, un observateur comme le docteur Bianchon, saurait deviner les merveilleuses poésies inédites, enfin, toutes les pages de ce beau roman dont le dénouement profite à quelques heureux sous-lieutenants, à quelques grands hommes de province. « Les femmes de province que j'ai vues à Paris, dit Lousteau, étaient en effet assez enleveuses. « Dame, elles sont curieuses, fit la châtelaine en commentant son mot par un petit geste d'épaule. « Elles ressemblent à ces amateurs qui vont aux secondes représentations, sûrs que la pièce ne tombera pas, répliqua le journaliste. « Quelle est donc la cause de vos maux ? Demanda Bianchon. « Paris est le monstre qui fait nos chagrins, répondit la femme supérieure. « Le mal a 7 lieues de tour et afflige le pays tout entier. » La province n'existe pas par elle-même. Là seulement où la nation est divisée en 50 petits États, là chacun peut avoir une physionomie, et une femme reflète alors l'éclat de la sphère où elle règne. Ce phénomène social se voit encore, m'a-t-on dit, en Italie, en Suisse et en Allemagne. Mais en France, comme dans tous les pays à capitale unique, l'aplatissement des mœurs sera la conséquence forcée de la centralisation. Les mœurs, selon vous, ne prendraient alors du ressort et de l'originalité que par une fédération d'États français formant un même empire, dit Lousteau.
Ce n'est peut-être pas à désirer, car la France aurait encore à conquérir trop de pays, dit Bianchon.
L'Angleterre ne connaît pas ce malheur, s'écria Dinah. Londres n'y exerce pas la tyrannie que Paris fait peser sur la France, et à laquelle le génie français finira par remédier. Mais elle a quelque chose de plus horrible dans son atroce hypocrisie, qui est un bien autre mal. L'aristocratie anglaise, reprit le journaliste, qui prévit une tartine bironienne et qui se hâta de prendre la parole, a sur la nôtre l'avantage de s'assimiler toutes les supériorités. Elle vit dans ses magnifiques parcs, elle ne vient à Londres que pendant 2 mois, ni plus ni moins. Elle vit en province, elle y fleurit, et la fleurit.
Oui, dit madame de La Baudraye, Londres est la capitale des boutiques et des spéculations, on y fait le gouvernement. L'aristocratie s'y recorde seulement pendant 60 jours. Elle y prend ses mots d'ordre, elle donne son coup d'œil à sa cuisine gouvernementale, elle passe la revue de ses filles à marier et des équipages à vendre, elle se dit bonjour et s'en va promptement.
Elle est si peu amusante qu'elle ne se supporte pas elle-même pendant plus que les quelques jours nommés la saison.
Aussi, dans la perfide Albion du Constitutionnel, s'écria Lousteau pour réprimer par une épigramme cette prestesse de langue, y a-t-il chance de rencontrer de charmantes femmes sur tous les points du royaume ?
Mais de charmantes femmes anglaises, répliqua madame de La Baudraye en souriant.
Voici ma mère, à laquelle je vais vous présenter, dit-elle en voyant venir madame Piedefer.
Une fois la présentation des deux lions faite à ce squelette ambitieux du nom de femme qui s'appelait madame Piedefer, grand corps sec, à visage couperosé, à dents suspectes, aux cheveux teints, Dinah laissa les Parisiens libres pendant quelques instants.
Eh bien, dit Gatien à Lousteau, qu'en pensez-vous ?
Je pense que la femme la plus spirituelle de Sancerre en est tout bonnement la plus bavarde, répliqua le feuilletoniste.
Une femme qui veut vous faire nommer député, s'écria Gatien.
Un ange !
Pardon, j'oubliais que vous l'aimez, reprit Lousteau.
Vous excuserez le cynisme d'un vieux drôle comme moi. Demandez à Bianchon, je n'ai plus d'illusions, je dis les choses comme elles sont. Cette femme a bien certainement fait sécher sa mère comme une perdrix exposée à un trop grand feu.
Gatien Boisrouge trouva moyen de dire à madame de La Baudraye le mot du feuilletoniste, pendant le dîner qui fut plantureux, sinon splendide, et pendant lequel la châtelaine eut soin de peu parler. Cette langueur dans la conversation révéla l'indiscrétion de Gatien. Étienne essaya de rentrer en grâce, mais toutes les prévenances de Dinah furent pour Bianchon. Néanmoins, au milieu de la soirée, la baronne redevint gracieuse pour Lousteau. N'avez-vous pas remarqué combien de grandes lâchetés sont commises pour de petites choses ? Ainsi, cette noble Dinah, qui ne voulait pas se donner à des sots, qui menait au fond de sa province une épouvantable vie de lutte, de révoltes réprimées, de poésies inédites, et qui venait de gravir, pour s'éloigner de Lousteau, la roche la plus haute et la plus escarpée de ses dédains, qui n'en serait pas descendue en voyant ce faux Byron à ses pieds lui demandant merci, dégringola soudain de cette hauteur en pensant à son album. Madame de La Baudraye avait donné dans la manie des autographes. Elle possédait un volume oblong qui méritait d'autant mieux son nom que les 2/3 des feuillets étaient blancs. La baronne de Fontaine, à qui elle l'avait envoyé pendant 3 mois, obtint avec beaucoup de peine une ligne de Rossini, 6 mesures de Meyerbeer, les 4 vers que Victor Hugo met sur tous les albums, une strophe de Lamartine, un mot de Béranger, Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse, écrit par George Sand, les fameux vers sur le parapluie par Scribe, une phrase de Charles Nodier, une ligne d'horizon de Jules Dupré, la signature de David d'Angers, 3 notes d'Hector Berlioz. Monsieur de Clagny récolta, pendant un séjour à Paris, une chanson de Lacenaire, autographe très recherché, 2 lignes de Fieschi et une lettre excessivement courte de Napoléon qui, toutes 3, étaient collées sur le vélin de l'album. Monsieur Gravier, pendant un voyage, avait fait écrire sur cet album Mesdemoiselles Mars, Georges, Taglioni et Grisi, les premiers artistes comme Frédéric Lemaître, Monrose, Bouffé, Rubini, Lablache, Nourri et Arnal, car ils connaissaient une société de vieux garçons nourris, selon leur expression, dans le sérail, qui lui procurèrent ses faveurs. Ce commencement de collection fut d'autant plus précieux à Dinah qu'elle était seule à 10 lieues à la ronde à posséder un album. Depuis 2 ans, beaucoup de jeunes personnes avaient des albums sur lesquels elles faisaient écrire des phrases plus ou moins grotesques par leurs amis et connaissances. « Oh, vous qui passez votre vie à recueillir des autographes,
gens heureux et primitifs, hollandais à tulipes. Vous excuserez alors Dina quand, craignant de ne pas garder ses hôtes plus de 2 jours, elle pria Bianchon d'enrichir son trésor par quelques lignes en le lui présentant. Le médecin fit sourire Lousteau en lui montrant cette pensée sur la première page. « Ce qui rend le peuple si dangereux, c'est qu'il a pour tous ses crimes une absolution dans ses poches. » J.B. de Clagny.
Appuyons cet homme assez courageux pour plaider la cause de la monarchie, dit à l'oreille de Lousteau le savant élève de Desplein.
Et Bianchon écrivit au-dessous. Ce qui distingue Napoléon d'un porteur d'eau n'est sensible que pour la société. Cela ne fait rien à la nature. Aussi la démocratie, qui se refuse à l'inégalité des conditions, en appelle-t-elle sans cesse à la nature. H. Bianchon.
Voilà les riches, s'écria Dina stupéfaite. Ils tirent de leur bourse une pièce d'or comme les pauvres en tirent un liard.
Je ne sais, dit-elle en se tournant vers Lousteau, si ce ne sera pas abuser de l'hospitalité que de vous demander quelques stances.
Ah, madame, vous me flattez. Bianchon est un grand homme, mais moi, je suis trop obscure. Dans 20 ans d'ici, mon nom serait plus difficile à expliquer que celui de monsieur le procureur du roi, dont la pensée inscrite sur votre album indiquera certainement un Montesquieu méconnu. D'ailleurs, il me faudrait au moins 24 heures pour improviser quelques méditations bien amères, car je ne sais peindre que ce que je ressens.
Je voudrais vous voir me demander 15 jours, dit gracieusement madame de La Baudraye en tendant son album. Je vous garderai plus longtemps. Le lendemain, à 5 heures du matin, les hôtes du château d'Anzy furent sur pied. Le petit La Baudraye avait organisé pour les Parisiens une chasse, moins pour leur plaisir que par vanité de propriétaire. Il était bien aise de leur faire arpenter ses bois et de leur faire traverser les 1200 hectares de landes qu'il rêvait de mettre en culture. Entreprise qui voulait quelques 100 000 francs, mais qui pouvait porter de 30 à 60 000 francs les revenus de la terre d'Anzy.
Savez-vous pourquoi le procureur du roi n'a pas voulu venir chasser avec nous ? Dit Gatien Boisrouge à Monsieur Gravier.
Mais il nous l'a dit. Il doit tenir l'audience aujourd'hui, car le tribunal juge correctionnellement, répondit le receveur des contributions.
« Et vous croyez cela ?» s'écria Gratien. « Eh bien, mon papa m'a dit. Vous n'aurez pas monsieur Lebas de bonne heure, car monsieur de Clagny a prié son substitut de tenir l'audience. »«
Ah ah !» fit Gravier, dont la physionomie changea. « Et monsieur de La Baudraye qui part pour la charité. »«
Mais pourquoi vous mêlez-vous de ces affaires ?» dit Horace Bianchon à Gatien.
« Horace a raison, dit Lousteau. Je ne comprends pas comment vous vous occupez autant les uns des autres. Vous perdez votre temps à des riens. »
Horace Bianchon regarda Étienne Lousteau comme pour lui dire que les malices de feuilleton, les bons mots de petit journal, étaient incompris à Sancerre. En atteignant un fourré, M. Gravier laissa les 2 hommes célèbres et Gatien s'y engager, sous la conduite du garde, dans un plis de terrain.
« Eh bien, attendons le financier, dit Bianchon, quand les chasseurs arrivèrent à une clairière.
« Ah bien, si vous êtes un grand homme en médecine, répliqua Gatien, vous êtes un ignorant en fait de vie de province. Vous attendez M. Gravier ? Mais il court comme un lièvre, malgré son petit ventre rondelet. Il est maintenant à 20 minutes d'Anzy. »
Gatien tira sa montre. « Bien, il arrivera juste à temps. »«
Où ?»«
Au château, pour le déjeuner, » répondit Gatien. « Croyez-vous que je serais à mon aise si madame de La Baudraye restait seule avec monsieur de Clagny ? Les voilà 2, ils se surveilleront. Dina sera bien gardée. »«
Ah ça, madame de La Baudraye en est donc encore à faire un choix, » dit Lousteau.
« Maman le croit. » Mais moi, j'ai peur que monsieur de Clagny n'ait fini par fasciner madame de La Baudraye. S'il a pu lui montrer dans la députation quelque chance de revêtir la simarre des sceaux, il a bien pu changer en agrément d'Adonis sa peau de taupe, ses yeux terribles, sa crinière ébouriffée, sa voix d'huissier enrouée, sa maigreur de poète crotté. Si Dina voit monsieur de Clagny procureur général, elle peut le voir joli garçon. L'élégance a de grands privilèges. D'ailleurs, madame de La Baudraye est pleine d'ambition. Sancerre lui déplaît. Elle rêve des grandeurs parisiennes.
Mais quel intérêt avez-vous à cela, dit Lousteau, car si elle aime le procureur du roi,
ah, vous croyez qu'elle ne l'aimera pas longtemps, et vous espérez lui succéder.
Vous autres, dit Gatien, vous rencontrez à Paris autant de femmes différentes qu'il y a 2 jours dans l'année. Mais à Sancerre, où il ne s'en trouve pas 6, et où de ces 6 femmes, 5 ont des prétentions désordonnées à la vertu, quand la plus belle vous tient à une distance énorme par des regards dédaigneux comme si elle était princesse de sang royal, il est bien permis à un jeune homme de 22 ans de chercher à deviner les secrets de cette femme, car alors elle sera forcée d'avoir des égards pour lui.
« Cela s'appelle ici des égards ?» dit le journaliste en souriant.
«
J'accorde à Madame de la Baudraye trop de bon goût pour croire qu'elle s'occupe de ce vilain singe, dit Horace Bianchon.
Horace, dit le journaliste, voyons, savant interprète de la nature humaine, tendons un piège à loup au procureur du roi, nous rendrons service à notre ami Gatien, et nous rirons. Je n'aime pas les procureurs du roi.
Tu as un juste pressentiment de ta destinée, dit Horace. Mais que faire?
Eh bien, racontons, après le dîner, quelques histoires de femmes surprises par leurs maris et qui soient tuées, assassinées avec des circonstances terrifiantes. Nous verrons la mine que feront Madame de la Baudraye et Monsieur de Clagny.
Pas mal, dit Bianchon. Il est difficile que l'un ou l'autre ne se trahisse pas par un geste ou par une réflexion.
Je connais, reprit le journaliste en s'adressant à Gatien, un directeur de journal qui, dans le but d'éviter une triste destinée, n'admet que des histoires où les amants sont brûlés, hachés, pilés, disséqués, où les femmes sont bouillies, frites, cuites. Il apporte alors ses effroyables récits à sa femme, en espérant qu'elle lui sera fidèle par peur. Il se contente de se pisaller le modeste mari. « Vois-tu, ma mignonne, où conduit la plus petite faute ?» lui dit-il, en traduisant le discours d'Arnolphe à Agnès.
Madame de la Baudraye est parfaitement innocente, ce jeune homme à la berlue, dit Bianchon. Madame Piedefer me paraît être beaucoup trop dévote pour inviter au château d'Anzy l'amant de sa fille. Madame de la Baudraye aurait à tromper sa mère, son mari, sa femme de chambre et celle de sa mère, c'est trop d'ouvrage. Je la quitte.
D'autant plus que son mari ne la quitte pas, dit Gatien en riant de son calembour.
Nous nous souviendrons bien d'une ou deux histoires à faire trembler Dinah, dit Lousteau.
« Jeune homme, et toi, Bianchon, je vous demande une tenue sévère. Montrez-vous diplomate, ayez un laissez-aller sans affectation, épiez, sans en avoir l'air, la figure des deux criminels, vous savez, en dessous ou dans la glace, à la dérobée. Ce matin, nous chasserons le lièvre, ce soir, nous chasserons le procureur du roi. »